l'heure la messe. En invoquant l'Esprit Saint pour cette année-ci. Et maintenant, c'est un peu un cours particulier, si vous voulez, c'est pour vous montrer un peu ce que doivent être les études cette année-ci, ici à Rimont. À Saint-Jodard, je le ferai demain. Mais comme les deux maisons sont deux en une maison, il ne faut pas l'oublier. Parce que je crois que c'est important pour maintenir une très profonde unité dans cette diversité, puisqu'il y a forcément une diversité. D'un côté, on insiste davantage sur la philosophie. De l'autre côté, on insiste davantage sur la théologie. Mais comme pour nous, je vous l'ai dit l'autre jour, philosophie et théologie, on les distingue, c'est bien évident. Les raisons formelles sont distinctes. Mais il faut que celui qui vit cette philosophie et qui vit cette théologie en vive dans une profonde unité. Et cette profonde unité, c'est cet aspect contemplatif, cette intention contemplative qui doit maintenir toutes nos études. C'est ce qui caractérise, je crois, ce que nous devons faire ici. Si on s'appelle l'école Saint-Jean, vous comprenez bien que c'est tout un programme. Autrement, c'est pharisaïque. Ce sera toujours un peu pharisaïque, puisque l'école Saint-Jean ne sera jamais à la dignité de l'école Saint-Jean. Mais on y tend de tout notre désir, de toutes nos intentions. On veut que nos études soient contemplatives. Contemplatives selon deux modalités différentes, selon trois modalités différentes, si vous voulez, puisque en réalité il y a trois modalités différentes, puisqu'il y a trois sagesses, et c'est vraiment ces trois sagesses que nous donne saint Thomas, auxquelles nous devons tout le temps revenir. Je dirais que c'est ça qui doit structurer profondément notre vie. Alors on est plus ou moins porté sur l'une ou sur l'autre. C'est normal. Parce que Dieu respecte la diversité des intelligences. Et Dieu veut l'unité du cœur. Il y a l'unité du cœur et la diversité des intelligences. Il ne faut pas l'oublier. L'unité du cœur, c'est que tous, nous désirons être sous la mouvance de l'Esprit Saint et du don de sagesse. Et que nous savons, si nous en avons le désir, que l'Esprit Saint sera là. L'Esprit Saint répondra à notre désir. Et si notre désir est grand, l'Esprit Saint répondra pleinement à ce désir. Et comme notre désir est dans le cœur de Marie, et que c'est Marie qui est siège de la sagesse, et que c'est Marie qui doit être là au milieu de nous, nous savons que l'Esprit Saint répondra pleinement. Mais nous avons des formes d'intelligence différentes. Et c'est là où on doit se respecter. Il y a une forme d'intelligence plus spéculative, plus métaphysique. Nous devons maintenir la métaphysique dans l'Église. Ça, je crois que c'est absolument nécessaire. Le Saint-Père le veut. Bien que vous savez bien, il le dit lui-même, il est plus incliné vers autre chose. Mais il veut que la métaphysique soit maintenue. Parce qu'on ne peut pas être disciple de saint Thomas sans maintenir la métaphysique. C'est absolument impossible. Et que l'Église en a besoin. L'Église a besoin d'une intelligence qui va le plus loin possible dans cette recherche de la vérité. Une intelligence qui soit tout entière possible à cette recherche de la vérité et qui s'offre pour que l'amour aille plus loin. Alors on a une forme d'intelligence plus métaphysique. Je ne vous demande pas d'être tous des métaphysiciens et d'être tous capables d'enseigner la métaphysique, c'est bien évident. Si c'était ça le critère, vous voyez, pour lequel on devrait entrer dans Saint-Jean, ce serait triste, parce que ce n'est pas ça le critère. Mais on maintient et on veut maintenir cette recherche. Il la faut. Même si de fait, dans le monde d'aujourd'hui, elle n'est plus sur l'agora. Elle n'est plus sur la place publique. Il n'y a pas une boutique où on vend la métaphysique, parce que ça ne se vend pas. Mais on la recherche. Il y a des formes d'intelligence qui sont plus tournées vers l'éthique. Celle du Saint-Père, par exemple. Et dans l'éthique, l'expérience interne est première. En métaphysique, l'expérience du jugement d'existence est première. C'est toujours très intéressant de voir ces deux pôles de notre vie intellectuelle. La métaphysique doit maintenir une éthique et l'éthique doit s'ouvrir à la métaphysique. Doit toujours respecter les deux. Mais il y a des formes d'intelligence plus tournées vers l'éthique, c'est-à-dire plus affectives, puisque la connaissance éthique est plus affective. Il y a une forme d'intelligence plus tournée vers l'éthique implique plus un aspect de la phénoménologie, de la description. C'est pas la même chose, c'est autre chose. Et c'est très bien, il le faut. Il faut toujours maintenir les deux. Je vous l'ai déjà dit, je le redis ici, parce que nous essayons d'avoir une vision de sagesse et donc de respecter la diversité. Il faut, au point de vue philosophique, tenir toujours ces deux extrêmes. Et on découvre progressivement que son intelligence est plus orientée vers le point de vue métaphysique ou plus orientée vers le point de vue éthique. C'est comme les deux pôles. Parce que je crois que c'est les deux pôles qui doivent toujours exister. Le troisième pôle, il est très secondaire. Je ne crois pas qu'il doit exister ici comme des spécialistes. Ce serait la logique. Vous voyez ? Parce que la logique n'est pas une sagesse, et parce qu'elle n'est pas une sagesse, s'il y a des logiciens parmi vous et des grands logiciens parmi vous, tant mieux, mais qu'ils ne parlent pas trop. N'est-ce pas ? Parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons pris par ce travers de mettre la logique à la place d'une sagesse. On invitera de temps en temps M. Kuhn pour nous rappeler ce que peut représenter le point de vue de la logique, mais il ne sera qu'invité. Ce ne sera pas autre chose, parce qu'il ne faut pas que, de fait, le point de vue logique, logique mathématique, l'emporte sur le reste. Je crois qu'il faut toujours maintenir ces deux grands aspects, métaphysique et éthique. Et au fond, c'est cela qu'on cherche avant tout. Parce que la philosophie du vivant oriente vers la métaphysique, elle oriente vers l'éthique. Donc elle est orientée vers les deux, et la philosophie de la nature aussi. Donc, et la philosophie de l'art, vous savez bien, elle est complémentaire à l'éthique. Parce qu'une véritable éthique implique une philosophie de l'art. C'est impossible autrement. Le très Saint-Père nous le montre bien. La culture, hein, ça fait partie de ces rappels constants. Et la culture, c'est le milieu dans lequel doit s'épanouir une philosophie éthique. Une philosophie éthique ne peut pas exclure le point de vue d'une culture, parce qu'elle en a besoin. La métaphysique, plus facilement, elle est plus libre par rapport à une culture, parce qu'elle s'accroche à une réalité qui est au-delà de la culture. Dieu est au-delà de la culture. Et si la métaphysique aboutit à Dieu, donc elle est au-delà. Alors il faut que cet aspect philosophique demeure commun à Raymond et à Saint-Jean. Il faut qu'il se maintienne toujours dans notre vie. Encore une fois, avec des accents différents. Hein. Il faut qu'il se maintienne dans notre vie. Et il faut que cette philosophie s'épanouisse dans une théologie. Je dis bien s'épanouit sans une théologie, puisque la philosophie doit être servante de la théologie. Et la théologie, elle s'accroche à la contemplation mystique. Et ça, je crois que c'est très important de se le rappeler tout le temps. Une véritable théologie se renouvelle par la mystique. Et donc, elle se renouvelle par ce contact constant avec l'évangile de Saint Jean, avec l'Apocalypse et la première épître. Et pour nous, l'évangile de Jean, l'Apocalypse et la première épître, c'est une nourriture nécessaire pour arriver à nourrir cette contemplation mystique. Notre théologie doit s'enraciner dans cette contemplation mystique. C'est ce qui nous fait comprendre qu'ici, notre théologie scientifique, c'est-à-dire notre docilité à saint Thomas, il faut que tous, nous puissions arriver à lire saint Thomas, autant que possible dans le texte, que nous puissions arriver à lire saint Thomas, pas seulement les traductions, vous voyez quand je dis ça, le livre. Que nous puissions arriver à le lire et à nous nourrir de saint Thomas. Mais on ne s'arrête pas à la théologie scientifique. S'arrêter à la théologie scientifique fait que la plupart du temps, on retombe sur le primat de la logique. C'est le défaut de la base scolastique. Et vous savez que c'est très important de voir ce que c'est que la base scolastique. Parce que ça a donné une tonalité très particulière à toute une manière de regarder les choses. On identifie la tradition et la base scolastique, c'est une erreur complète. Parce que la tradition, au sens fort, n'est pas à ce niveau. La tradition théologique est au niveau des pères de l'Église et de saint Thomas. Et pas de la scolastique décadente. Et pour ne pas tomber dans ce défaut de la scolastique décadente, il faut que notre théologie scientifique s'ouvre à une théologie mystique. Alors c'est cela que, de fait, nous essaierons de faire ici. À Rimont, vous comprenez, à Saint-Jodard, vous voyez bien, c'est la philosophie et puis la nourriture de la foi. Puisque les étudiants de philosophie sont ceux qui se consacrent à Dieu et donc qui ont besoin d'une nourriture directe de la foi. Ici, c'est le laboratoire théologique. Il faut mettre ça, laboratoire théologique, il ne faut pas l'oublier. Alors, la philosophie sera présente pour exiger de vous de ne jamais perdre contact avec la philosophie. Mais ce sera le laboratoire théologique avant tout. Et c'est ce qu'il y a d'original dans cette première année d'ici, dans cette seconde année de Rimont. Première année où, de fait, nous essayons, je dis bien nous essayons. Il faut que tous nous essayons. Donc, quand vous avez des idées géniales, communiquez-les au Père Marie-Alain pour qu'il puisse voir si c'est génial. N'est-ce pas ? Ou si simplement un mythe particulier du futurible ou du passé. Alors vous devez essayer de comprendre et coopérer. Nous cherchons tous ensemble, vous voyez. Et je crois que c'est très important de se dire qu'on cherche tous ensemble à essayer de découvrir ce que doit être une théologie mystique. La théologie scientifique de saint Thomas, elle nous est donnée. C'est pas commun de bien la comprendre. Hein? Parce que si on comprend la théologie de saint Thomas comme la scolastique décadente l'a compris, on trahit la pensée de saint Thomas. Puisque saint Thomas dit toujours que la logique n'est qu'un instrument. Et donc, elle n'est pas sagesse. Alors que la théologie pour saint Thomas est sagesse. Donc elle est contemplative. autrement, elle ne serait pas sagesse. Et si elle est contemplative, elle reste ouverte à une contemplation plus profonde qu'est la théologie mystique. Alors voyez, entre la théologie scientifique et notre contemplation mystique qui est ineffable, c'est bien évident. Votre oraison, quand elle est sous le souffle de l'Esprit Saint, c'est ineffable. Je ne vous demande pas, après l'oraison, de noter tous les concepts nouveaux que vous avez eus durant l'oraison. Parce que si vous avez vraiment fait oraison, vous direz aucun. Mais c'est vrai. Toute contemplation divine est ineffable. Elle ne peut pas se dire. Tandis que la théologie mystique doit se dire. Et c'est là où il faut bien comprendre qu'entre la théologie scientifique et notre contemplation, il y a la place à une certaine théologie qu'on peut appeler théologie mystique, théologie spirituelle, j'aime mieux théologie mystique que théologie spirituelle, qui doit se faire dans l'Église et qui n'est pas faite. On essaie, on cherche. Oui, c'est pas étonnant. Hein. Si saint Thomas l'avait faite, on aurait. Or, c'est pas commode exactement de voir dans saint Thomas ce que saint Thomas concevrait comme une théologie mystique. Les grands commentateurs de saint Thomas, Jean de saint Thomas, qui est sûrement le plus grand des commentateurs de saint Thomas, c'est pour ça qu'il faut de temps en temps avoir un œil sur Jean de saint Thomas. C'est pas mauvais. C'est de la scolastique, mais de la bonne scolastique. Jean de saint Thomas n'hésite pas de dire que ce que saint Thomas nous dit à propos de la doctrina sacra n'est pas adéquat à la somme théologique. Et ça, c'est très intéressant. Parce que certains théologiens d'aujourd'hui, dits thomistes, mettent une adéquation entre ce que saint Thomas nous dit dans sa somme et la théologie mystique. Il n'y a qu'une seule théologie, la théologie scientifique. Pour saint Thomas, non. Et c'est pour ça qu'il dit scientifique. Pour bien nous faire comprendre que c'est un caractère particulier à la théologie. Très important, très très important, mais c'est un caractère particulier. Il faut donc chacun d'entre nous, les plus petits comme les plus grands c'est ceux qui enseignent, les plus petits c'est ceux qui écoutent, n'est-ce pas ? Les plus grands et les plus petits doivent chercher progressivement qu'est-ce que c'est que le statut d'une théologie mystique. C'est difficile, c'est pas commode, et c'est très intéressant et c'est très important. Il faut essayer de le découvrir. Et c'est pour ça que la théologie scientifique ici, en regardant saint Thomas, en se servant de saint Thomas, en lisant saint Thomas, il faudra que tous, à la fin de cette année-ci, quand même, puisque le grand traité de cette année-ci, nous allons les voir, du reste, les grands traités de cette année-ci, puisque c'est le mystère de la très sainte Trinité, il faudra que tous nous ayons lu au moins le début du traité de la très sainte Trinité chez saint Thomas. Je ne vous dis pas d'avoir tout lu, parce que c'est pas commode. Il y a certaines questions qui sont difficiles et qui sont un peu rébarbatives. Alors on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Mais au moins d'avoir lu les quelques grandes questions qui commandent tout le traité sur la très sainte Trinité. Et j'en ai beaucoup de courage d'avoir lu entièrement ce que saint Thomas nous dit sur la très sainte Trinité dans la somme. Il faut tendre vers cela, mais tendre vers ça non pas pour rester fixé sur la somme, mais pour nous interroger qu'est-ce que saint Thomas veut nous dire. Lui qui connaît le traité de la Trinité de saint Augustin, il le connaît. Lui qui est un contemplatif et qui a sûrement une expérience profonde de ce qu'est la paternité, ce que représente l'unité profonde avec Jésus, ce que représente le souffle de l'Esprit Saint au plus intime de son âme. Comment se fait-il que quelqu'un qui a eu cette expérience si profonde de la très sainte Trinité nous donne la somme théologique? Il y a un problème, c'est bien évident. Il ne s'agit pas de dire « Ah, j'ai résolu ». Non, non, ce n'est pas si commode que ça. Quand nous rencontrerons saint Thomas dans le ciel, on pourra lui poser quelques petites questions là-dessus. Parce que c'est pas si commode que ça de voir comment saint Thomas l'a résolu. Alors dire « c'est son temps » et « c'est la mode de son temps », ça c'est faux. Saint Thomas n'est pas influençable à l'égard de la mode. Ça, pas du tout. C'est un contemplatif. Donc il est libre. Les contemplatifs sont libres par rapport aux modes. C'est peut-être la meilleure définition de la contemplation, n'est-ce pas ? Parce que là, vous voyez tout de suite, il est au-dessus. Tandis qu'au contraire, ceux qui sont influençables au mode, c'est la théologie d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la théologie d'aujourd'hui ? La théologie, c'est une recherche de la vérité. Alors si aujourd'hui on dit des bêtises, ne soyons pas la théologie d'aujourd'hui. Je vous en supplie. Cherchons la vérité. Saint Thomas cherche la vérité. Et c'est ça qu'il cherche. Alors pourquoi exprimer le mystère de la très sainte Trinité de cette manière si penante, si profonde à certains aspects et si déroutante sur d'autres? Alors il y a quelque chose à découvrir, et en même temps, en découvrant cela, l'intention profonde de saint Thomas en tant que théologien qui fait la théologie scientifique, ouvrir son traité de théologie scientifique à une véritable théologie mystique de la très sainte Trinité. Et comment ferions-nous une théologie mystique de la très sainte Trinité? Il faut se poser la question. Je ne dis pas la résolution, cherchez, cherchez, puis on pourra, à la fin de l'année, parce que ce serait bien, alors essayez, une fois que vous êtes bien entré dans la théologie scientifique de saint Thomas, il faut accepter au début de faire des gammes. Et saint Thomas nous apprend à faire des gammes. Il donne un assouplissement des mains, c'est merveilleux, et un assouplissement de l'intellect. Et quand on est passé par saint Thomas, on devient un tout petit peu plus intelligent parce qu'on fait moins de confusion. Et on s'aperçoit que ceux qui ne sont pas passés par saint Thomas font des tas de confusions, exactement comme au point de vue philosophique, ceux qui ne sont pas passés par Aristote font des tas de confusions, et au point de vue théologique, ceux qui ne sont pas passés par saint Thomas font des tas de confusions. Parce que je crois que c'est analogue, vous voyez. Aristote doit être pour nous, au point de vue philosophique, ce que saint Thomas est pour nous, au point de vue théologique. C'est-à-dire des maîtres qui sont morts, hélas, mais ce sont des maîtres sur lesquels on revient tout le temps. On se fait les dents. Ce sont des os durs, hein, qui résistent et auxquels on doit revenir tout le temps. Et je crois qu'il faut, au point de vue philosophique, revenir à Aristote, au point de vue théologique, s'appuyer sur saint Thomas, parce que ça forme. Au-delà de saint Thomas, il y a les pères de l'Église, c'est évident. Et lire les pères de l'Église, c'est très important pour redécouvrir ce que c'est qu'une théologie mystique. Mais les pères de l'Église prient pour eux-mêmes, sans regarder saint Thomas, risquent toujours de ne pas nous former. Mais c'est comme si on prenait les présocratiques. Hein ? Enfin, cette analogie jusqu'au bout. Mais les présocratiques, c'est merveilleux. Pour Heidegger, c'est tout, pas pour nous. Pour Heidegger, c'est Parménide qui forme. Hein. Parménide ne forme pas. C'est poétique, c'est merveilleux, c'est étonnant. Mais ça ne forme pas. Vous allez beau lire 100 fois le poème de Parménide, vous ne serez pas formé à la métaphysique. Vous comprendrez peut-être un peu mieux Heidegger. C'est pas le but, hein. C'est la recherche de la vérité qui est le but. Eh bien, les pères de l'Église, c'est un peu comme ça, ça me frappe toujours beaucoup. Les théologiens qui ne sont formés que par les pères de l'Église disent des choses très très belles, des choses très étonnantes, poétiques. mais n'ont pas l'habitus théologique. Ils seront capables de se laisser entraîner par des choses qui ne seront pas justes, parce qu'ils n'auront pas le discernement, ils n'auront pas la formation profonde. Et saint Thomas nous donne cela, mais saint Thomas ne suffit pas. C'est évident que saint Thomas ne suffit pas. Nous devons être des théologiens dans l'Église d'aujourd'hui qui réclament de nous une théologie mystique pour le contact avec les orthodoxes, et je crois aussi pour pouvoir aider ceux qui ont perdu la foi. Parce que le langage de saint Thomas, c'est très difficile à communiquer, exactement comme le langage d'Aristote. C'est très difficile à communiquer. Il faut déjà être convaincu. Si on est convaincu et qu'on veut se former, Aristote, saint Thomas. Mais c'est pas du tout apologétique. C'est pas du tout apologétique. Donc nous disons ad intra que nous formons Aristote et saint Thomas, mais ad extra, nous disons que nous sommes ouverts à tous les problèmes d'aujourd'hui. N'est-ce pas ? Et nous disons que nous recherchons une contemplation mystique, et que c'est saint Jean, et que c'est vraiment saint Jean, parce que c'est vrai, c'est ça. Et qu'au point de vue philosophique, nous faisons une anthropologie magnifique et étonnante. Hein? Alors c'est ça. Alors à ce moment-là, on comprend. Dites que vous, votre philosophie, c'est une anthropologie, tout le monde dira « Ah oui !» Dites que vous travaillez, que vous avez une théologie qui est directement sur saint Jean, « Ah oui, ça, les gens acceptent !» Et quand vous dites Aristote et saint Thomas, qu'est-ce que ça veut dire ? Rien du tout. Vous avez très bien ad intra. Il faut toujours être attentif à ça. Il ne faut pas faire de gaffe. Hein. Parce que les jeunes pharmaciens font des gaffes. Ils vendent des produits ad intra pour ad extra et des extra pour ad intra. Hein. Alors faites attention aux novices. Hein. Aux novices dans l'ordre de la connaissance. Hein. Et quand vous dites, oh, nous c'est merveilleux, on se plonge dans Aristote, on plonge dans... Ah, qu'est-ce que c'est ? Mais non, ne dites pas ça, c'est pas la peine, ils ne comprendront pas. C'est pas la peine. Il faut au contraire dire qu'on se forme vraiment à une recherche authentique de ce que c'est que l'homme. Et on met l'homme tout le temps en face. Et puis on recherche une théologie de lire saint Jean, de lire l'Apocalypse, de comprendre profondément ce que ça représente, ce point de vue de la vie. Donc vous voyez l'orientation. Je crois qu'il faut que là-dessus, nous soyons unanimes. Un seul cœur, un seul esprit. Je crois que vous l'êtes, du reste, autrement je ne vous le dirai pas. Non? Mais l'être de plus en plus, et de plus en plus convaincu, pas parce que je le dis, mais convaincu intérieurement. Et donc s'il y a des obstacles, s'il y a des difficultés, dites-les. Parce qu'il ne faut pas garder pour soi des obstacles. Il faut comprendre que nous travaillons ensemble dans un même esprit. Avec le désir de faire ça parce qu'on est convaincu que c'est cela que nous devons donner à l'Église d'aujourd'hui. Et que si l'Esprit Saint a suscité la communauté Saint-Jean, c'est pour qu'on revienne aux sources philosophiques, théologiques, qui sont complètement coupées. Et alors à ce moment-là, toute notre vie religieuse, toute notre vie religieuse sera contemplative. Vous savez très bien, il y a une scolastique dans la vie religieuse et une basse scolastique dans la vie religieuse, comme dans la pensée. Les deux se tiennent. C'est ce qu'on appelle un formalisme. Le formalisme de la vie religieuse et le formalisme de la scolastique, c'est analogue. La logique qui se retrouve du côté matériel, du côté de la vie. Il ne faut pas s'opposer. Il faut prendre quelque chose de plus profond. C'est la finalité de la vérité. C'est la finalité de notre vie profonde, de notre cœur, que nous devons toujours rechercher pour respirer pleinement. Et faire que toute notre vie religieuse va se renouveler grâce à cette soif de la contemplation. Alors, avec cette soif de la contemplation, on deviendra intelligent pour Dieu et pour ses frères. Et la vie religieuse doit nous aider à être intelligents pour Dieu et pour ses frères. Après ce rappel, hein, je vais maintenant voir un tout petit peu les petits détails, hein, parce que c'est important quand même. Donc, je ne parle pas ici de ce que nous ferons à Saint-Jodard. Vous le saurez, c'est très simple. À Saint-Jodard, cette année-ci, au point de vue métaphysique, je reprends tout au point de départ. Ce qui n'empêche pas de faire aussi, au point de vue terminal, d'une théologie naturelle, puisque c'est toujours important d'essayer de voir cela et d'essayer de comprendre quelques autres aspects. Et alors il y aura d'autres professeurs qui viendront. Je prends tout de suite ici, parce que c'est ici qu'il faut essayer de comprendre ce que nous allons faire ensemble. Vous savez bien que la très grosse difficulté aujourd'hui, c'est de trouver de vrais exégètes. J'avais demandé au père Feuillet s'il pouvait venir. Je crois qu'il a dit qu'il ne pouvait. J'avais demandé au père Feuillet s'il pouvait venir. Je crois qu'il a dit qu'il ne pouvait pas venir. À cause de sa santé, mais qu'il cherche parmi ceux qu'il connaît quelqu'un qui pourrait venir. Mais il a dit lui-même, dans le secret, hein, cœur à cœur, hein, qu'il ne voyait pas beaucoup ses disciples qui étaient restés fidèles. C'est très significatif, ça. Très difficile d'être fidèle aujourd'hui dans la partie de l'exégèse. C'est-à-dire d'accepter d'être des serviteurs. On veut toujours être des maîtres. D'être des serviteurs. C'est ce qui manque le plus dans le monde d'aujourd'hui. C'est des serviteurs. C'est pour ça qu'il n'y a plus de théologiens. Parce qu'on veut tout de suite être des maîtres. Alors, il faut accepter d'être serviteurs. Alors on va quand même essayer, comme on peut, ce qu'il faut. Moi je ne vous donne pas un cours d'exégèse. Hein. Non. Je vous donne un cours de lecture de l'Écriture, présupposant la théologie de saint Thomas, et nous ouvrant à notre vie mystique. On se nourrit de l'Écriture. Ce que j'essaie avec vous, c'est beaucoup plus d'avoir une vision de théologie biblique, en comprenant ce terme d'une façon profonde, l'ordre voulu par Dieu à travers la révélation. Alors nous essaierons cette année-ci ensemble, je dis nous essaierons parce que moi-même, si j'avais le temps de travailler cela, je le ferais avec une très grande joie parce que c'est quelque chose qui me semble très intéressant. Le petit livre du père Feuillet, oui, je me mets à l'école du père Feuillet parce que je l'aime beaucoup et que le père Feuillet apporte toujours quelque chose. Ce petit livre du père Feuillet qui me semble extrêmement intéressant, d'oser au cantique des cantiques, c'est ce que nous essaierons de voir ensemble au point de vue théologie de l'Ancien Testament. Le père Feuillet souligne d'oser au cantique des cantiques. Ce sont les prophètes qui annoncent et qui ne cessent d'annoncer que ce qu'il y a de plus important dans l'alliance, c'est l'alliance de l'époux et de l'épouse. C'est un grand secret qui est comme confié à Osée, qui est comme confié à tous les grands prophètes. Et qui va se réaliser en dernier lieu dans un cantique, le cantique des cantiques. C'est très beau ensemble de lire le cantique des cantiques, hein. Non pas dans une lecture proprement exégétique, mais dans une lecture de théologie biblique, et de comprendre, je voudrais qu'on puisse y arriver. d'oser aux cantiques des cantiques. L'année dernière, et je continuerai ça à Saint-Jodard, nous avions vu le point de départ avec la Genèse. Et nous continuerons la lecture de la Genèse à Saint-Jodard. Je lui ai dit, moi je ferai le même cours à Saint-Jodard ici, vous savez, pour faire un peu moins. Puis on m'a dit, non, il vaut mieux faire deux choses différentes pour qu'on puisse profiter. Alors très bien, j'ai accepté déjà. Mais vous voyez que là, c'est beaucoup plus comme une intuition profonde de mon cœur. Et je voudrais que cette intuition puisse se réaliser avec vous. Alors là, je demanderais tout simplement que nous travaillions ça ensemble, hein, parce que c'est important. Et vous pouvez travailler de votre côté, puis ne pas hésiter de me dire, mais oui, il y a telle ou telle chose hein, qui m'a semblé important et intéressant. Un travail ensemble, de faire cela, pour entrer dans la grande perspective des prophètes. Je vous ai demandé au point de vue liturgique d'entrer dans les psaumes. Alors si vous êtes les psaumes et les prophètes, c'est pas si mal. Hein. C'est bien. Ça fait entrer dans quelque chose de très très important de l'Ancien Testament. Et puis nous verrons aussi quelque chose alors où je suis plus à l'aise parce que je le connais mieux, toute la grande théologie biblique de l'Apocalypse. Je crois que c'est bon de voir les deux ensemble. Qu'est-ce qui est au cœur de l'Apocalypse ? C'est la réalisation plénière des prophètes. Puisque l'Apocalypse termine par les noces de l'agneau. Vous voyez ? D'oser à l'Apocalypse. En passant par le cantique des cantiques. Donc il y a une unité profonde à ce point de vue-là. Et c'est important pour nous d'essayer de comprendre tout de suite quelque chose qui nous est communiqué avec le plus d'amour possible. Et je suis tout à fait conscient qu'à côté de cela, il faudrait, et on fera tout ce qu'on peut, pour essayer d'avoir une étude exégétique des textes. C'est important. Vous voyez, je ne le méprise pas du tout, au contraire, je voudrais que ça se fasse. Tant que notre frère Jérôme hein, n'a pas suffisamment de barbe au menton, n'est-ce pas, on ne va pas lui demander de nous faire ce cours. Mais il faut qu'il s'y prépare progressivement, parce que je crois que c'est très important. Et si parmi vous, il y en a qui ont des désirs d'être des exégètes de l'Ancien Testament, on cherche. Cherche. Le frère Jérôme serait avant tout pour le Nouveau Testament. Il s'y prépare. Et alors c'est très bien. Et c'est bon de s'y préparer tout de suite quand il s'agit de l'exégèse, de s'y préparer. Donc, vous voyez, il y a tout ce secteur qui va être ici assez pauvre. Mais comme on priera beaucoup, je suis sûr que le Saint-Esprit enverra des anges. Parce que le Père Spic restera à Saint-Jodard. Il viendra donner des cours à Saint-Jodard. Du reste, c'est pas plus mal. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un d'autre pour vous, qui vous aide à entrer dans l'exégèse. Parce que le Père Spic a ses qualités et ses limites. C'est bon qu'il y ait quelqu'un d'autre. Il faut toujours avoir deux voix. Pour la théologie fondamentale, qui est quelque chose de particulier qui va se continuer même si vous êtes en théologie tous condamnés. Je crois que c'est quand même nécessaire de revenir toujours à la théologie fondamentale. Cette année-ci, j'essaierai avec vous de voir ce que représente la prophétie et l'inspiration. C'est quand même important de saisir ce point de vue-là. Parce que c'est quelque chose de très important pour nous de saisir le mystère de la parole de Dieu et de bien saisir le mystère de la parole de Dieu. En théologie morale, je mets la théologie morale puisque c'est l'ordre que m'a donné le père Marie-Alain, en réalité c'est la théologie dogmatique qui viendrait après. Mais comme c'est lui, alors il s'est mis après. Mais la théologie dogmatique, c'est le mystère de la très sainte Trinité. le mystère des missions et de l'habitation de Dieu en nous. La vie divine, révélation du mystère de la très sainte Trinité. C'est notre Père Marie-Alain qui fera cela 2 heures par semaine. Avec sans doute un séminaire en plus, hein. Ça fera 3 heures par semaine. C'est bien. Pour le dogme, il faut au moins ça. Pour l'histoire de l'Église, donc après théologie morale. Alors, le Père John Thomas regardera le point de vue, si vous voulez, de la théologie morale, foi et espérance. Et puis moi-même, je verrai avec vous, dans une lecture de saint Thomas, le point de vue du péché. Je crois que c'est important pour l'année de la rédemption, de voir le point de vue du péché, d'essayer d'entrer dans saint Thomas par le point de vue du péché, 1 heure par semaine, tandis que John Thomas, je crois que ce serait 2 heures. Hein? 2 heures par semaine. Si il est essoufflé, il y aura quelqu'un qui viendra soutenir, hein, les bras de Moïse en croix. Alors, il viendra l'aider, le soutenir. L'histoire de l'Église, cette année-ci, donc, ce sera portion maigre, parce qu'il n'y aura rien d'histoire de l'Église ici, pour cette année-ci. On y pense, hein, croyez-le bien. Le droit canon existera avec le père de Tarragone. C'est très bien ça. Il viendra vous donner des sessions sur le droit, sur le nouveau. Alors on verra l'équilibre de ça, parce que c'est par mode de session. La pastorale existera aussi par notre cher ami François Boutin, qui est responsable de la pastorale dans un diocèse, donc on ne peut pas avoir mieux, n'est-ce pas ? Et comme c'est Toulon, et qu'on est lié avec Toulon, et que François Boutin est un vieil ami, puisqu'il a fait ses études à Fribourg, nous serons là dans une recherche commune, parce que c'est aussi un cours de recherche, hein, la catéchèse ou la pastorale, c'est vraiment un cours de recherche, pas le droit canon, c'est pas un jour de recherche, ce sont des déterminations qui sont données, tandis qu'au contraire le point de vue de la pastorale vient compléter, hein, le droit canon. La liturgie, il y aura un petit cours de liturgie par mode de session. Le père Descroix, qui est recommandé par l'évêque, qui est un homme merveilleux, vous verrez, il vous fera rire toute la journée, n'est-ce pas ? Parce qu'il est plein d'humour, et ce sera bien de nous donner la liturgie sur l'Eucharistie. Puis, nous aurons le père von Schönborn, qui viendra nous parler des pères de l'Église, l'Église d'Orient et le mystère de la très sainte Trinité, pour nous faire entrer dans la patristique. C'est important d'entrer dans la patristique par quelqu'un qui la connaît bien et qui l'aime beaucoup. Alors il y aura 2 séminaires, séminaire de théologie morale, la foi, séminaire de théologie dogmatique, la foi de l'Église dans le mystère de la très sainte Trinité. Je crois qu'il y aura un cours de langue, c'est-à-dire de latin, hein, par le frère Jérôme. Alors il commencera à faire un peu d'exégèse, hein. Un petit peu, ce sera pas mauvais, pour montrer la différence entre la traduction du grec et du latin, soit ce serait intéressant. Je crois que c'est important de maintenir le point de vue du latin et du grec. Alors on essaiera de faire un cours de débutants et d'avancés, pour ne pas se passionner, et en même temps que les débutants puissent avoir ce qu'ils doivent avoir. Bon, je crois que c'est important d'essayer de saisir cela. Et alors on maintiendra un cours de philosophie autant que possible. ce sera le point de vue